Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h09, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche, de 9h à midi, encore une heure en votre compagnie. Pour notre plus grand plaisir, si vous avez raté les deux premières heures, ce n'est pas très bien, mais ce n'est pas très grave. Il y a une séance de rattrapage. C'est le podcast de l'émission. Vous allez sur les différentes applications. Vous précipitez pas tout de suite, je le dis à chaque fois, mais c'est important sur le podcast. Parce qu'on a encore une heure à vous proposer. Ce serait quand même dommage de se dire, ah oui, je rattrape.
Et si vous perdez la dernière heure,
il faut que je réécoute le 11. Enfin, après, on s'en sort.
Ou alors, téléchargez le podcast, appuyez sur play sans le son, comme ça, ça nous fait une écoute supplémentaire. Et après, vous réécoutez avec le son, comme ça, ça fait deux écoutes habiles. Comme ça, on fait monter les
scores. J'aime bien ça, les techniques pour faire monter tout ça. Oui, donc allez nous écouter maintenant. Envoyez tous les players, dites à votre famille de faire ça. Ça va être génial, ça nous permettra d'avoir une énorme d'avoir rien du tout à la fin de la saison. Toujours avec Simon Dutin, Stephen Brun, Marie Martineau, Marion Bartoli et notre invité pour cette dernière heure, le skipper Maxime Sorel, 10e du dernier Vendée Globe. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Salut Maxime.
Merci
Maxime.
D'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Tu es avec nous ce matin, parce qu'on t'aime bien, c'est vrai, mais aussi parce que tu rentres du Népal où tu as gravi l'Everest la semaine dernière. Tu vas nous raconter cette aventure extraordinaire, dans des conditions météo absolument extrêmes, une aventure qui t'a beaucoup marqué. Il y a aussi 12 personnes qui ont perdu la vie sur les pentes de l'Everest durant cette période, durant ces 3 jours. Donc évidemment, ce sera un témoignage poignant, mais aussi, j'imagine, de sport absolument dingue. Ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. En tout cas, on est vraiment ravis de t'avoir, Maxime, dans cette émission. Mais tu vas faire comme nous. Tu vas passer un petit test, tout d'abord, car tu vas devoir débattre avec nos amis les GG sur de la Formule 1. Tu te sens plutôt armé pour débattre ?
Ça va, Formule 1, ça va.
Ouais, ça va. C'est...
Oh,
on a mis les petits plats dans les grands. Hein. Oui. Quel sport, là, ça allait pas du tout ?
Basket, je pense que j'aurais été moins fort.
Pardon.
Alors, je suis pas à la taille.
Bah, est-ce qu'on va, on peut changer, on peut faire LeBron James, ça va.
Mais bah oui, mais bah non.
On ne va pas faire ça. Je vais débuter cette nouvelle heure avec cette citation. Marc serait très fier de moi, Marc Madiot, du général de Gaulle, qui a dit un jour, pour faire blocus et pour faire le blocus de Monaco, il suffit seulement de 2 panneaux de sens interdit.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Charles Leclerc est-il maudit sur son circuit à Monaco ?
Ces histoires de malchance, j'y crois pas.
Oh, il y a un problème. Il y a un problème pour Charles Leclerc.
C'est fascinant la malchance, monsieur le président.
On avait tout pour gagner et on l'a foutu carrément à la poubelle, quoi. Donc
à droite, c'est la piste. Mais à gauche, j'ai l'impression que c'est raccourci.
Leclerc a perdu les freins et endommagé sa monoplace.
Qui se débrouille avec leur malédiction.
On a touché le mur, on a crevé. Donc voilà, la course s'arrête là.
La malédiction absolue de Charles Leclerc en principauté.
Je sais pas trop quoi dire là, totalement.
Fuck, fuck. Put a smell on you.
Charles Leclerc va-t-il enfin briller chez lui à Monaco ? C'est l'une des interrogations du week-end avant le 80e Grand Prix monégasque de l'histoire. Difficile de faire un lancement sur le dieu. Mais ça me fait pas la musique, s'il vous plaît. J'en ai plein les oreilles. Merci les copains. Je recommence pas, hein, vous avez compris. Le pilote Ferrari l'a disputé 4 fois ce Grand Prix de Monaco. Résultat, 3 abandons. Et 1/4e place. Très frustrante la saison dernière. Je ne crois pas en la malédiction. C'est ce qu'a déclaré le principal intéressé cette semaine. La musique qui fout les jetons. Et cette question. La malédiction de Charles Leclerc. Croyez-vous au blocage psychologique ? Oui ou non ? Maxime, tout d'abord, c'est un oui ou un non. Et puis après, il n'y aura pas de débat. On ne dit rien d'autre. Et puis comme ça, les gens sont contents. Si, après, on pourra détailler, évidemment. Oui ou non ? Simon Dutin.
Non.
Marie Martineau.
Oui, bien sûr.
Stephen Brun.
Non.
Marion Bartoli.
Non.
J'ai l'impression que Marie, tu es toute seule à chaque fois depuis le début de cette émission depuis 9h, non ?
Tu as conscience que j'ai sauvé toute ton émission, hein.
Et c'est pour ça que tu es là, car tu sauves l'émission.
Bien sûr.
Maxime Sorel, oui ou non ?
Un grand non.
Un grand nom. Tu es encore plus
que ça.
Marie Martineau, avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste et notre envoyé spécial à Monaco, c'est Valentin Germain. Salut Valentin.
Salut à toutes et à tous.
Salut Valentin.
Alors, la malédiction, Charles Leclerc n'y croit pas, et pourtant, les faits sont là têtus.
Oui, pourtant le sort s'acharne sur le monégasque. 2018 accident, 2019 accident, 2021 il ne peut pas prendre le départ pour un problème mécanique alors qu'il doit partir en pôle, et donc 2022 nouvelle pôle pour Leclerc, mais une terrible erreur de stratégie de son équipe qui le fait entrer au stand en même temps que son coéquipier Carlos Sainz, et cette 4e place au final. Il était complètement fou il y a un an, Charles Leclerc, et interrogé cette semaine, il pense, lui, effectivement, que les choses peuvent tourner.
Je n'irai pas jusqu'à la malédiction. Je ne crois pas beaucoup en la chance. Après, c'est sûr que ça n'a pas été un circuit qui nous a souri dans le passé. Le dimanche, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Mais bon, cette année, c'est une nouvelle année. À Monaco, tout est possible. Bon, sur les circuits en ville, le pilote peut faire un petit peu plus la différence. Donc, je vais essayer de la faire, moi, personnellement, dans la voiture. Et voilà, on va essayer de tout faire pour avoir un bon week-end cette année, parce que les dernières années n'ont pas été faciles ici.
Alors Leclerc peut s'appuyer sur, pourquoi pas, ses performances à Bakou, qui est un circuit en partie en ville comme Monaco. Cette année, il a gagné la pole position, il a fini troisième en course. Son équipe ici, bien sûr, ne verse pas dans le fatalisme. Hein. On insiste même à plusieurs reprises. Oui, Leclerc est un des meilleurs sur ce type de circuit urbain. Oui, il peut gagner chez lui, c'est ce qu'a dit et répété hier Laurent Méquies, le directeur sportif de Ferrari.
Vous savez, quand vous voyez Charles, vous pensez au pur talent, et je pense justement que c'est sur ce genre de piste que ce type de pilote s'exprime le mieux. Alors sûrement car ils utilisent au maximum leur capacité pour être le plus proche possible des 100% de performance. C'est différent des pistes où ils sont plus loin des limites, où ils peuvent s'ajuster au fil des tours. Ce week-end, c'est une vraie opportunité pour nous, d'autant plus que c'était dur sur les autres circuits cette saison.
Voilà pour la coup derrière, mais quand on va dans les tribunes ou dans les rues derrière le Grand Prix, où d'ailleurs on voit beaucoup bien sûr de t-shirts et de casquettes avec le numéro 16 de Leclerc, eh bien les fans ne sont plus circonspects sur le sujet. Écoutez ce que pensent Michel et Ghislaine, ils sont venus d'Isère.
J'espère que pour lui ça va aller avec les petites erreurs qu'il y a eu, j'espère que ça va aller pour lui, oui. Je pense qu'il doit avoir la pression.
Il doit être patient avec lui-même, à force d'avoir des problèmes, il commence à douter de lui-même. Et ça, c'est pas bon. Il n'est pas rassuré. C'est ça le problème, c'est qu'il est chez lui. Et moi, à mon avis, ça le travaille. Mais le fait que ça ne marchait pas bien jusqu'à maintenant, il doit se dire...
J'y arriverai un jour.
Oui, mais un jour, il doit se poser des questions sur lui-même. Qu'est-ce qui m'arrive ?
Cette pression est-elle trop forte ? C'est la principale question. Pas sûr, pense Jack, qui lui fait la queue devant une boutique Ferrari. Lui aussi est monégasque et il est partagé sur le sujet.
Chaque année, on parle de Charles pour le Grand Prix, mais même pendant l'année, on le voit en voiture. Pour nous, Charles, c'est quelqu'un qui est local. On le voit très, très souvent. Il participe à des événements. On le croise parfois dans la rue. C'est vraiment quelqu'un pour nous qui vit ici. Et je pense qu'il le vit un peu mal. Et chaque année, il y a toujours quelque chose qui lui arrive. Ouais, je pense que mentalement, il est très, très fort et qu'il arrive à quand même surmonter ses épreuves et arriver à passer un peu le cap de repenser à ce qui s'est passé avant. Je pense qu'il prend le positif à chaque fois des courses et qu'il avance.
Un premier rendez-vous à 16h, hein, c'est les qualifs. Mais attention à ce que ça ne devienne pas une histoire de famille, puisqu'hier, un pilote de F2 s'est mis dans le mur pendant les qualifs. C'était Arthur Leclerc, le frère de Charles.
Merci beaucoup, Valentin Germain. Tu restes avec nous pour ce débat et on te suivra tout le week-end. Tu seras notre envoyé spécial. On reparlera du Grand Prix de Monaco demain dans les GG. La malédiction de Charles Leclerc. Croyez-vous au blocage psychologique ? J'ai un nom, Simon Dutin. Pourquoi non ?
Parce que lui-même, il n'y croit pas, parce qu'il est persuadé qu'il peut gagner et que, de toute façon, dans le paddock, il n'y a que des mecs qui sont persuadés qu'ils peuvent gagner. Même les mecs qui jouent les dernières places, ils sont persuadés que s'ils avaient la voiture de Verstappen, ils cireraient tout le monde à chaque course. C'est des carnassiers qui sont persuadés depuis qu'ils sont jeunes qu'ils peuvent gagner. Il a déjà fait deux fois la pole à Monaco. Bon, il n'a pas gagné, Val le rappeler pour différentes raisons. Donc voilà, pourquoi un blocage psychologique ? Tu sais qu'à Monaco, c'est important de partir en tête.
Oui, mais il est déjà parti en tête et à chaque fois, il n'a pas gagné.
Mais c'est pas de sa faute. C'est Ferrari, il y a déjà quelqu'un dans les stands et qu'on lui dit de rentrer au stand, c'est pas de sa faute, c'est pas une malédiction.
Si tu veux, la pression populaire à Monaco, si tu veux, bon, t'as qu'à voir à Louis II. C'est calme.
Je peux confirmer, oui.
Niveau pression populaire, c'est calme dans la principauté. Donc voilà, il n'a pas plus la pression. S'il y a pression psychologique qu'il y avait, ce serait à trouver dans le rapport qu'il y a entre le nombre de pôles, 19 je crois, et son nombre de victoires. Il a gagné 5 fois alors qu'il est parti 19 fois en pôle. Donc s'il y a une pression psychologique, il se la met à tous les Grands Prix. Et parfois, il a du mal à convertir ses bons temps. Mais effectivement, à mon avis, quand t'es pilote Ferrari, t'as plus la pression à Monza qu'à Monaco. Et je vois pas pourquoi il finirait pas par gagner chez lui.
Marie-Martine, c'est oui. Donc oui, je pense tout l'inverse. Je vais tenter une comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut, mais moi j'ai connu le fait de faire un circuit de Coupe du Monde avec les mêmes dates, aux mêmes endroits, les mêmes rendez-vous, à la même période de l'année, qui s'enchaînent dans le même sens, celle d'avant et celle d'après, et celle d'encore après. Je vois très bien le schéma mental dans lequel tu peux t'inscrire, et j'ai connu des endroits où tu empiles des déconvenues. Et tout comme des endroits où tu ne sais pas pourquoi, il faut quand même se l'avouer, ça marche tout le temps, du feu de Dieu, et d'une année sur l'autre, t'es dans la forme de ta vie à ce moment-là, et ça marche bien. Et tu ne m'enlèveras pas l'idée que même s'il est monstrueux dans sa tête, même si les grands champions de son type-là sont des gens qui maîtrisent les mécanismes mentaux, il y a quand même une douce petite musique qui s'installe, et quand tu commences à empiler accident, problème mécanique, déconvenu au stand, le truc mais improbable, et ben quand même je pense que en fond de tableau derrière, même si c'est un carnassier, même si je souscris à la quasi-totalité de ce qu'a dit Simon, je pense qu'il y a quand même un petit quelque chose, un grain qui vient se poser là. Et alors quand hier son frangin se fout dans le mur, alors bon c'est facile à Monaco, il y a des murs partout, donc t'as quand même de grandes chances de foutre dans le mur, mais
c'était le seul, c'est ça le...
Mais voilà, c'était le seul, c'est là, tu vois, c'est... Ah, je peux pas croire que ça vienne pas quand même un peu te trotter dans la tête, quoi.
Ok, trotter dans la tête, quelque chose qui peut devenir d'année en année, et c'est vrai qu'aussi la presse, on le relaie.
Mais tu vois, il dit je crois pas en la chance, mais bien sûr la malédiction, la chance, tout ça, moi non plus, tu vois, mais c'est bien différent du blocage psychologique. Je pense pas qu'il en soit un blocage, hein, tu vois, mais d'un truc psychologique qui vient qui est lancinant, quoi.
Voilà. Ok, Maxime Sorel et après Marion Bartoli et Stephen Brun.
Et du coup, je partage pas du tout l'avis parce qu'en fait, il est toujours là. C'est-à-dire que bah, il est proche de la pôle, voire la pôle, et donc il fait le job. Il a juste.
Quoi, c'est la faute à pas de chance.
Ben oui.
Et aussi beaucoup à son écurie. Quand même.
On le fait rentrer dans le stand. Ils sont deux. il fait son tour de chauffe, le moteur. Ben voilà, il est obligé d'abandonner. Donc. Moi qui pratique un sport mécanique, à un moment donné, on met tout en œuvre pour y arriver. Ça casse. Voilà, c'est comme ça. T'as pas de chance et c'est pas lié au fait que ben voilà, on ait une pression quelconque et que du coup on prépare mal.
Okay. Tu vas nous dire que t'avais pas de caleçon de la chance, par exemple. Tu vas pas au Vendée Globe avec ton caleçon préféré.
Max, c'est un mec sans caleçon.
On le connaît bien, Max.
Bien sûr. Max, je sais que c'est.
T'es pas obligé de répondre au caleçon.
Si.
Et ça se voit. En plus.
Non mais Maxime,
il va avoir un beau baptême, Maxime, ils sont complètement fous.
Tu fais le Vendée Globe, tu termines deuxième. Est-ce qu'il n'y a pas, quand on est sportif de haut niveau et que, évidemment, on s'appuie sur du matériel et que c'est de la technologie, il n'y a pas ce petit truc qui rentre insidieusement dans la tête?
Mais non, on n'a juste pas réussi à être premier, mais psychologiquement, si on est toujours en train de faire deuxième, c'est quand même qu'on est là, quoi.
Ok, tu vois le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Marion Bartoli.
En général, les mecs qui font de la voile, le verre.
Ah, Marion Bartoli.
On sait le vider, mais.
Il est souvent totalement vide. Mais
juste avant Marion, il faut savoir, Maxime, Stephen, il n'est pas là pour analyser le sport.
Non, c'est pour faire des blagues, des blagues.
Il est là pour balancer de la punchline. Et puis nous, on aime bien. Moi, j'adore Stephen. Marion Bartoli.
Non, mais moi, alors, je suis très cartésienne. Pour le coup, j'analyse froidement ce qui se passe. La première année, il arrive à Monaco avec Sauber. Bon, on va quand même pas penser qu'avec Sauber, il va arriver et gagner Monaco. Ok, après, il passe chez Ferrari, ça commence à mieux se passer. Mais là, c'est Ferrari, son écurie, qui, franchement, est en dessous de tout. Ok, donc, il part Poleman, deux reprises. Une fois, dans son tour de chauffe, sa boîte de vitesse casse à l'entrée du tunnel. Et l'autre fois, il y a Sainz dans les stands et on lui dit « rentre, rentre ». Et puis finalement, l'ingénieur se rend compte que non, faut pas rentrer. Il hurle dans la radio « sors, sors ». Sauf que c'est déjà trop tard et dans la voie des stands. Donc comment tu peux passer ça ?
C'est une bonne répète pour Fort Boyard quand même.
Non mais comment tu peux passer ça sous la malchance ou du blocage psychologique ? Ça n'a rien à voir. C'est juste des erreurs de stratégie mais
non,
qui sont à
te
des degrés infinis.
Ça peut finir par instiller quelque chose de très psychologique.
Je pense, Marie, qu'au contraire, ça va être un boost psychologique pour lui de se dire « Ok, j'ai des nuls à mes côtés qui me font faire n'importe quoi. » Parce que là, il part quand même deuxième. Hein. C'est Verstappen qui est premier, il part quand même deuxième. Alors, ok, on sait qu'effectivement, pour doubler à Monte Carlo, c'est extrêmement compliqué. Et qu'effectivement, si tu pars en premier, tu as plus de chances de finir premier. Mais il peut toujours se passer quelque chose avec Verstappen sur un pit stop un tout petit peu plus long. Il peut finir premier. Mais je pense au contraire, ça va le booster psychologiquement de se dire « J'ai pas les plus forts avec moi dans ma stratégie, mais bon, je vais être capable quand même de leur démontrer que je suis le meilleur pilote dans la voiture et que c'est moi qui vais les taper et qui finir numéro un. Donc, c'est pour moi, je prends le problème sous le sens inverse avec une psychologie inversée.
Ok, psychologie inversée, j'ai bien compris. Enfin, il va falloir que je me remette de cette analyse quand même. Non, mais est-ce qu'il y a des endroits, les copains, où vous, les sportifs de haut niveau, il y a des endroits où vous étiez non pas nul, mais malchanceux, ou ça, une salle de basket pour toi, Stephen, peut-être un cours de tennis que tu sentais pas. Il y a quelque chose que tu sens moins bien, Steve.
Écoute, non, moi c'est jamais arrivé. Moi j'ai toujours été à l'aise partout. C'est ça.
Mais
en fait, dans les sports, et Maxime l'a dit, dans les sports où tu es pas maître entièrement de ton destin, en l'occurrence la mécanique, pour moi il n'y a pas de blocage psychologique. Tu vois Clermont au rugby qui perd 10 finales d'affilée. Là, à un moment donné, il y avait un problème psychologique. Richard Gasquet, qui est à 0 sur 18 contre Rafa Nadal, il y avait un blocage psychologique. Il se disait, il voyait le tirage, Nadal, voilà, c'est mort. Il prenait un petit coup derrière la tête, il disait, je vais pas gagner. Là, quand t'es dépendant de tes mécaniciens, quand t'es dépendant de ta voiture qui peut te lâcher à tout moment, et surtout que ça fait que 4 Grands Prix que Leclerc est là à Monaco. On parle pas d'un mec qui a 15 participations au Grand Prix de Monaco et qui a toujours échoué. Là, peut-être qu'on pourrait refaire le débat. Tu vois, et puis, on a oublié de parler aussi de la concurrence. Aujourd'hui, Charles Leclerc, il arrive à Monaco. Il y a les Red Bull. Donc, à un moment donné, tout peut bien se goupiller. Il peut être en pole position. Il peut faire un bon pilotage. Mais si t'as pas la meilleure voiture, c'est compliqué de gagner, j'y sais. Même si tu connais... Même si
Pérez à partir 7e.
Même si t'as grandi sur le Grand Prix et que tu connais tous les virages par cœur, regarde-toi, par exemple. T'es membre d'un club de golf. Tu vas sur ton parcours de golf, ça fait 10 ans que tu joues 4 fois par semaine.
J'attends celle-là.
Il y a Rory McIlroy qui arrive, qui vient jouer chez moi dans mon jardin. Et ben, tu gagnes pas, mon grand. Parce que le mec, il est meilleur que toi. Même si tu connais tous les fairways, tous les bunkers.
Il n'y aurait pas de blocage psychologique.
Il joue pas mieux à Saint-Quentin qu'à Saint-Aubin. Je te remercie parce que je vais te partager mon expérience de sportif de haut niveau. Moi, également, j'ai jamais ressenti la pression. Tu sais, quand je jouais au tennis en interclub, je perdais aussi souvent à Pessac que dans les autres clubs. Et vraiment, j'avais pas une pression supplémentaire à Pessac. Non, mais Stephen a raison de rappeler. Je suis désolé, les mecs, depuis qu'ils ont 8-10 ans, le circuit de Monaco, ils le connaissent par cœur. Tu les as sur les simulations. Ils connaissent tous au millimètre chaque virage. Donc, je veux dire, il n'a pas un avantage quand il est dans sa bagnole avec son casque, ses ingénieurs qui lui parlent dans sa bulle. La pression, tu l'entends pas, tu la ressens pas plus parce que tu connais bien le quartier. Et en revanche, je pense que s'il veut un tips pour savoir où on peut dépasser à Monaco, il peut appeler Jérôme Roten, il doit connaître 2-3
Simon, allez, on y va. Quand même, il y a des préparateurs mentaux partout, dans toutes les équipes. On sait maintenant et dorénavant que ça fait partie de la réussite et que c'est un point de pas négliger. Mais il y a, à vous écouter, il n'y a pas de blocage psychologique, il n'y a que des tueurs, il n'y a que des machines, il n'y a que des gonzes qui savent où ils vont, comment ils vont y arriver et qui vont rouler sur les autres et tout.
Bah là, si t'es pas un tueur pour prendre des voitures et rouler à 300 km/h à 20 cm du mur, c'est pas un tueur, je sais pas.
Mais ils ont des failles, les gars. Mais bien sûr qu'ils ont des failles, mais non, mais arrêtez vos conneries.
On va pas vous entendre et vous allez pas vous entendre sur ce sujet. Maxime, est-ce qu'il y a des endroits quand tu es en mer, je rappelle que tu es skipper, est-ce qu'il y a des endroits que tu sens pas où
ouais,
tu
40e rugissant, il aime bien.
Non, mais où tu sens qu'il se passe toujours un problème, que t'as pas forcément envie d'y aller, peut-être que c'est entré dans ta tête ou pas du tout.
Ouais, bah en point de Bretagne, en fait, il y a un rail de cargo, le rail de Ouessant, où j'ai été percuté sur la transat anglaise, en tête de la transat anglaise, et un cargo me percute. Donc c'est une zone où je suis hyper vigilant et je suis pas superstitieux, donc ça va, mais ouais, c'est des zones où j'aime pas être.
Mais c'est pas une raison pour l'éviter, par exemple.
Non, bien sûr, mais je suis obligé d'y passer en plus. Donc, voilà.
Oui. Après, tu peux
faire un peu plus vigilant, quoi.
T'as pas une dérogation près de la course en disant.
Je vais faire le tour là.
juste pour terminer sur cette histoire de cargo que je ne connaissais pas. Tu le vois arriver quand même.
Oui,
lui aussi. Enfin, je veux dire, t'es sur un niveau cas. Enfin, peut-être pas sur cette course-là d'ailleurs.
L'histoire peut être longue, mais oui. En fait, nous, on a ordre de pas changer de cap, en fait, parce que lui n'est pas prioritaire sur nous. Et pour pas lui donner une mauvaise info, on a ordre de pas changer de cap. Donc on essaye de prendre contact avec lui par radio, sauf que bah en fait là il y avait personne à la passerelle. Et moi j'ai fait des manœuvres de dernier recours, mais pas suffisamment tôt, et donc il m'a quand même percuté.
Pas pratique pour la paperasse. Hein,
et comment ça se passe pour le constat, c'est comment bah, comme...
J'étais en course.
En double fil sur le côté. Ouais. Tout voilà.
J'étais en course, en tête de cette course. Du coup, la direction de course a envoyé l'armée qui est venue voler sur au-dessus du cargo. C'était un cargo russe. Ils les ont arrêtés à Brest et c'est assez facile pour le constat du coup.
Très bien.
T'as jamais vu les warnings sur les IMOCA ?
Non.
C'est normal. Merci beaucoup Valentin Jamin d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
On reparlera du Grand Prix de Monaco demain. La course est à 15h à suivre sur RMC en intégralité. Vous n'allez rien manquer. Et puis il y aura les qualifs cet après-midi. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité Maxime Sorel qui a réalisé l'exploit du double Everest, l'Everest des mers, le Vendée Globe, mais également l'Everest des terres. Il a gravi l'Everest la semaine dernière. Il y a 10 jours, il va nous raconter. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h32, on est de retour. J'avance un peu, c'est pour ça. De retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi. Très heureux d'être avec vous. N'hésitez pas à aller nous télécharger en podcast et merci infiniment de votre fidélité. Ce matin, toujours avec Marie Martineau, Marion Bartoli, Simon Dutin, Stephen Brun et notre invité, Maxime Sorel, skipper qui a gravi l'Everest il y a quelques jours.
Et ouais, t'as gratté l'Everest.
When Maxime summit Everest?
Maxime summit yesterday, 4 a.m. in the morning, to the top of the world.
Tout paraît petit en fait, c'est ça qui est dingue. Mais je sais pas, il y a des montagnes qui sont 2000 mètres en dessous. Quand on est au pied de la montagne, elle est énorme. C'est 7000, mais voilà, elles sont toutes petites.
Kiki Sasso!
C'est la chanson traditionnelle quand on est tout en haut de l'Everest, c'est ça Maxime?
C'était à l'arrivée au camp de base, ça. C'est effectivement avec les Sherpas. C'était beaucoup d'émotions, parce qu'ils sont très spirituels. Ils implorent les dieux de laisser passer la montagne et quand on arrive, c'est une explosion de joie. Ouais.
Maxime Sorel est donc notre invité ce matin dans les grandes gueules du sport. Tu es skipper, tu as terminé 10e du dernier Vendée Globe. On peut citer le sponsor, Mayenne d'adoption.
Ouais, VNB Montbana Mayenne, effectivement.
Cette mythique course que l'on appelle aussi l'Everest des mers. Et tu t'es donc lancé dans ce projet de double Everest, en mer donc et sur terre, pour l'association Vaincre la mucoviscidose, dont tu es le parrain national. Il y a 10 jours, dans la nuit du 17 au 18 mai, tu as donc atteint avec ton Sherpa le sommet de l'Everest qui culmine, je le rappelle, à 8848 mètres. C'est le toit du monde. 10 jours après, Maxime, comment tu te sens déjà physiquement? Comment tu es?
Bien fatigué, clairement. En fait, on a c'est 43 jours d'expédition, hein, l'Everest. On passe 30-35 jours à essayer de s'acclimater. Donc beaucoup de temps au camp de base et aussi sur les différents sommets qui sont autour, avant de commencer à aller chatouiller ce gros mont. Pendant cette acclimatation, en fait, le corps il est un peu malade. On a une sorte de bronchite et un rhume permanent. Et ça fatigue énormément. Et donc, du coup, quand on démarre l'ascension finale, en fait, on est déjà éclaté. On n'est plus à 100%. Et c'est vrai que quand on revient, on est quand même bien, bien fatigué.
Il y a différents camps de base. Tu en as parlé de ces camps de base. Il y a différents points d'étape d'attente aussi avant de pouvoir gravir les échelons et se lancer dans la dernière ascension. Quel est le plus impressionnant de ces camps de base? C'est le dernier, le numéro 4, je crois?
Ouais, c'est ça. C'est le numéro 4 qui est en fait sur une zone de la montagne. En fait, il est entre l'Everest et le Lhotse. Donc vraiment un trou et le vent se canalise à cet endroit-là. Et il y a tout le temps du vent. Donc il fait extrêmement froid et on y passe très peu de temps. On y passe 3 heures pour siester et puis ensuite aller essayer de gravir le mont.
Les GG ont beaucoup de questions à te poser. J'en ai également beaucoup. On a juste envie, avant de parler des choses douloureuses que tu as pu vivre là-bas, déjà, quelles sensations on ressent sur le toit du monde, en haut de l'Everest? Ça fait quoi?
Eh bien, ce qui est assez impressionnant, c'est que quand on monte, on ne voit pas tout de suite le sommet. En fait, on ne le voit qu'à la fin. Donc, c'est une espèce de dôme blanc hein, qui est pas très esthétique une fois qu'on est en haut. En revanche, on est vraiment dans la quête de le voir, ce sommet. Et on le voit dans la dernière demi-heure. Et c'est vrai que quand il apparaît, on se dit, on est sur le toit de l'univers, quoi. Et je me suis mis à regarder les étoiles. Et en fait, je me suis dit, mais je ne les verrai plus jamais d'aussi proche, quoi.
Parce qu'on rappelle que c'était la nuit et que tu restes combien de temps au sommet?
Eh ben nous on reste 5 minutes en fait. Le météorologue nous annonce une météo hyper clémente avec très peu de vent, maximum 25 km/h, et en fait on a quasiment le double et il fait moins 50 degrés quoi. Donc
raison que vous ne pouvez pas rester plus longtemps.
Ouais, c'est ça, c'est que en fait moi je passe mon temps à taper mes pieds pour essayer de faire en sorte que le sang arrive bien aux orteils. Et si on s'arrête pour se poser, en fait, on gèle sur place.
Le giflet météorologue. Menteur ! Oh, menteur !
Moins 50 à moins 60 degrés tout en haut de l'Everest. Et ensuite, il y a la descente. On va en reparler. Qui veut se lancer ? Marie Martineau.
Pas prêt, hein. pourquoi cette envie, alors mis à part l'engagement associatif, la mucoviscidose bien sûr, merveilleuse cause, pourquoi vouloir jouer avec la mort?
Alors je suis pas allé, c'était pas un souhait clairement de jouer avec la mort, j'avais conscience que oui, sur une ascension comme celle de l'Everest, ben, on peut y rester. J'adore la montagne, clairement, j'adore l'alpinisme, ça fait partie intégrante de ma préparation de skipper, et je me suis dit que si j'étais capable de créer un projet Vendée Globe, avec tout ce que ça comporte, hein, les aspects techniques, financiers, ben, j'aimerais faire un double Everest. Donc les 5 dernières années de ma vie, en fait, ben, je me suis attelé à faire à la fois un Vendée Globe et un Everest. J'ai vraiment découvert que je pouvais y rester en y allant et en y étant, et seulement la dernière journée, les dernières heures d'ailleurs, pas sur l'ascension mais plutôt sur la descente. Et c'est vrai que ça
et
fait quelque chose. Et bien parce que c'était un espèce de chaos, il y avait beaucoup de monde sur cette montagne à ce moment-là. Il faut bien comprendre qu'en fait, il y a qu'un mois, on va dire, sur l'année pour gravir l'Everest, parce qu'il y a qu'un mois où la météo est à peu près clémente et qu'on peut avoir des moments sans vent ou sans trop de vent à cette altitude. Il y a eu beaucoup de monde, je crois que c'était 460 permis autorisés sur cette montagne. Côté népalais, parce que côté tibétain, en fait, ben, c'était fermé. Les frontières chinoises étaient fermées. Donc, tous ceux qui ont l'habitude de monter, les Chinois, les Indiens, ont l'habitude de monter côté tibétain, sont venus de ce côté-là. Donc, ça a un peu encombré la montagne. Et en plus de ça, il y a eu un créneau de 3 jours seulement, 3 nuits, pour aller tenter le sommet. Donc, forcément, tout le monde a envie d'y aller en même temps. Et ouais, j'ai vu des gens pas prêts, des gens qui avaient juste envie qu'on les emmène, que les Sherpas les aident à gravir cette montagne.
Ça marche pas comme ça. Hein.
Et ça marche pas du tout comme ça. Et ouais, sur la redescente, j'ai vu des trucs assez atroces. Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as pu voir dans cette descente parce que j'allais dire heureusement pour toi, tu les as vus lors de la descente, parce que si tu avais vu ces choses-là lors de la montée, peut-être que tu ne serais jamais monté.
Ouais, peut-être qu'elle m'aurait dissuadé de me dire, attends, là c'est quand même chaud, même si tu te sens bien. Alors, vu que j'en avais conscience, en permanence sur cette ascension, j'étais en train de me dire, mais est-ce que mon envie n'est pas en train de masquer des choses que je ne ressens pas sur mon corps? Donc, du coup, j'essayais de voir si mes mains, tout allait bien, mes pieds, tout était clean. Parce que je savais qu'on pouvait avoir des gelures et du coup, de ne plus ressentir les choses, ben, ça veut dire que c'est déjà trop tard. Et en fait, pour essayer de rester lucide, je répétais mon code Wi-Fi du camp de base, qui était un code que je ne connaissais pas forcément par cœur, et pour voir si je le retenais. Donc, je le répétais tous les 20 minutes en me disant bon, bah, c'est bon, je le connais encore. Et c'est vrai que j'ai porté beaucoup d'attention à cause de ce que j'avais vu auparavant et de la prise de conscience de ce qui peut arriver.
C'était pas le code Wi-Fi d'une Livebox orange, hein, je t'annonce que tu l'aurais jamais retenu. Hein,
peut-être. Non, c'est bon, j'ai plus d'oxygène, mais c'est juste qu'il est impossible à retenir. Marion Bartoli, un petit peu léger avec évidemment ces situations dramatiques que tu as pu vivre. Marion.
Alors moi, j'ai une question technique parce que j'ai pu lire qu'à 8000 mètres d'altitude, ton tuyau d'oxygène s'est débranché. Et donc, je me dis que déjà, l'air est extrêmement rare, bien sûr, à cette altitude, mais en plus, sans oxygène, est-ce que tu as ressenti un stress traumatique de se dire « je ne vais pas y arriver » ou « il faut que je redescende » ou ça ne t'a jamais traversé l'esprit? Comment tu as fait pour gérer à ce moment-là?
Surtout, est-ce que tu t'en es rendu compte?
Pas tout de suite, c'était à la redescente. Donc, toujours dans cette même lignée, en fait, hein, la grosse problématique de l'Everest, c'est que rendu au sommet, on ne peut pas se croiser, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un chemin. Et on n'a pas la place, il y a 3 km de vide d'un côté, 2 km de l'autre, on est sur une arête. Donc en fait, c'est 2 personnes qui avancent et qui descendent, 2 personnes qui montent. Et j'arrivais sur ce qu'on appelle le ressaut Hillary, c'est la dernière grosse difficulté, une espèce de rocher un peu dur à monter et à descendre. Et je voyais un groupe de plusieurs personnes qui arrivaient, donc je me suis dit, bon, je m'engage, je vais vite et comme ça, je les laisse passer derrière. Et en faisant ça, j'arrache mon tuyau qui connecte mon masque de la bouteille. Et pris dans l'élan de la descente, je sens que je suis très essoufflé, mais j'arrive à descendre. Et puis je commence à sentir des picotements dans mes mains, dans mes pieds, parce que mon corps, il n'envoie plus d'oxygène, il n'en a pas. et la tête tourne, et là je me dis waouh, il y a un truc qui va pas, et je suis vraiment en train de suffoquer, et je m'assois, et là je me dis là il y a vraiment un problème, et je demande à les gens qui attendaient pour monter qu'est-ce qui reste comme pression dans ma bouteille. Et en fait, vu que la bouteille était plus connectée au tuyau, bah, le manomètre, il annonçait zéro. Donc le gars, il me dit bah, qu'il n'y a plus d'oxygène.
Oh la panique.
Il n'y a plus d'oxygène, ok. Mon Sherpa, il est, bah, il est 10 minutes plus haut, quoi. Donc le temps qu'il vienne, je ne sais pas ce qui va se passer. Et, mais en même temps, c'est plus très lucide dans la tête, quoi. Donc je ne sais plus trop quoi faire. Et ouais, il y a une espèce de panique là quand même.
Qu'est-ce que tu as fait du coup ?
Sur le coup, pas grand-chose. Je réfléchissais à comment me sortir de cette situation. Et en fait, il y a un Sherpa qui est passé, qui a vu que mon flexible était débranché et qui me l'a rebranché. Il restait encore un peu d'oxygène dans la bouteille. Et ça m'a permis d'attendre mon Sherpa qui avait ma deuxième bouteille.
Oh, ouais. Ok, sans ça, pardon de le dire comme ça, mais sans ça, tu tenais combien de temps ? Est-ce que tu sais maintenant ?
Ben, déjà, il fallait que je reprenne un peu mes esprits parce que j'étais en fait essoufflé de l'effort et c'était compliqué de reprendre. Normalement, je peux tenir assez longtemps. Faut savoir que avec oxygène, on est à 30% de capacité respiratoire. Sans, on est autour des 10. C'est très très peu. Mais on peut tenir. Il y a des gens qui arrivent à gravir à cette altitude sans oxygène.
Stephen, je sais que tu as des questions. Simon également. Vous d'autres, les GG aussi. On va revenir dans quelques instants avec notre invité Maxime Sorel qui nous raconte cette expérience absolument hors du commun et parfois malheureusement effroyable. Cette histoire de gravir l'Everest. À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
Jean-Christophe Drouet.
11h47, les GG du sport, toujours avec Marion Bartoli, Marie Martineau, Stephen Brun, Simon Dutin et notre invité Maxime Sorel. Qui a donc gravi l'Everest il y a 10 jours maintenant, c'était dans la nuit du 17 au 18 mai. Tu as commencé à nous raconter cette aventure, tu as encore beaucoup de choses à nous dire. Je rappelle que c'est aussi pour l'association Vaincre la mucoviscidose, voilà, donc c'est aussi très important de le rappeler. Tu as fait ça pour la bonne cause, mais aussi tu as mis ton corps en danger. Stephen Brave avait une question pour
toi. Oui, je voulais parler de cette relation humaine que tu as avec ton Sherpa sur cette montée, parce que tu noues ta vie un peu à ce garçon-là. Est-ce que c'est toi qui le choisis ? Quelle relation tu as avec lui ? Tu parles, les briefings, raconte-nous un peu, parce que c'est quand même des personnages fantastiques, ces garçons-là.
Oui, alors il y a un chef Sherpa. Nous, on était 3 Français, et donc on avait 4 Sherpas. Il y en a un, le chef Sherpa, qui nous a accompagné sur tout le trek d'approche jusqu'au camp de base qui dure environ 8 jours et ensuite qui a fait toutes les petites ascensions autour du camp de base et c'est vrai que ben, on lie une relation et seulement la veille de partir les Sherpas décident de qui ils prennent comme membre français. Donc c'est assez
chouette. Eux qui te choisissent.
Ouais, c'est eux qui te choisissent, ouais.
Et en fonction de ton niveau physique ?
Non, fonction des affinités, en fonction aussi du niveau physique, c'est-à-dire qu'il y a certains Sherpas qui sont plus en mesure de t'aider si jamais tu dois redescendre, parce que physiquement...
Si j'y vais, il faut un Sherpa un peu gaillard.
Il en faut deux.
Simon Dutin.
Ouais, moi, c'est les disciplines que tu pratiques m'inspirent toujours les questions pourquoi partir et comment revenir, tu vois. Et effectivement, tu pratiques ce qui sont à mon sens les deux disciplines les plus dangereuses, les plus incroyables à faire, ce qui m'impressionne le plus. Donc, tu vois, je noue à terre hein, face à toi. Je voulais te demander deux questions. Où as-tu le plus peur et qu'est-ce qui est le plus difficile entre un Vendée Globe et l'ascension de l'Everest ?
Mais clairement, le plus difficile, c'est le Vendée Globe. C'est une course qui se prépare sur plusieurs années. C'est une course qui dure 3 mois. Donc, toutes disciplines confondues, il n'y a pas plus extrême que le Vendée Globe. En revanche, je ne me suis jamais senti aussi en insécurité que sur cette montagne, l'Everest. Dans mon bateau, j'ai l'impression d'avoir une sorte de carénage, d'être dans la boîte en carbone. Certains te disent ouais, mais t'as des vagues de 10 mètres, comment tu fais ? Peu importe, en fait, oui, ça va pas être confortable, je vais en chier dans ma boîte en carbone. En revanche, je suis pas en frontal direct avec les éléments. Là, dans la montagne, j'ai vu tout de suite que quand t'enlèves ton gant qui fait moins 50, y a vite un problème. Si ce gant tu le perds et que t'en as pas de rechange, parce que ça, c'est arrivé. J'ai vu des gens qui perdent un gant parce qu'il y a trop de vent. Le gant, il s'envole et ils n'ont pas de paire de gants de rechange.
Ça m'angoisse. Oui.
Mais ces gens, ils sont pas prêts, quoi. Ils n'ont rien à faire là. Ouais, c'est ça. Et oui, en fait, je me suis senti vite en insécurité là, dans cette montagne. Les changements de bouteilles d'oxygène, il faut tourner le manomètre, le remettre sur un autre. Et en fait, il y a un des Sherpas, il l'a fait trop vite et il a cassé le manomètre. Et du coup, les Sherpas, ils avaient plus qu'un masque pour deux. On est à 8500 mètres, quoi. Donc, on est dans la zone de la mort.
On en a parlé et tu en parles très bien de cette mort. Toi, tu as vu des choses qu'on n'imagine même pas. C'est-à-dire que tu as vu la mort.
Ouais, je savais, on m'avait dit, tu verras, peut-être que tu verras des corps le long du chemin, des corps gelés d'il y a plusieurs années. Chose que je n'ai pas vue, je n'ai pas vu d'anciens corps. En revanche, j'ai vu de la viande fraîche morte sur le passage et il a fallu enjamber pour pouvoir continuer le chemin. Et ça, clairement, j'étais pas prêt. Et je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est pas tant les gens qui sont là et qui sont décédés, c'est plus les gens qui, pour moi, n'ont plus les capacités de monter et qui se font monter par les Sherpas parce qu'ils veulent à tout prix y aller. Et à un moment donné, au sommet du Rosso Hilari, nous, on était en train de descendre et il y a une Chinoise qui était là et qui faisait non de la tête et qui n'arrivait pas à monter. Ces deux Sherpas ont essayé de la tirer, ils n'y arrivaient pas, ils glissaient. Et avec mon Sherpa, on a tiré sur les Sherpas qui tiraient sur cette dame pour pouvoir monter, quoi. Et nous, c'était juste pour dégager le chemin pour pouvoir passer. Ouais. Mais elle était plus capable de monter et elle continuait à monter, quoi. Donc je ne sais pas si elle est redescendue.
Je rappelle qu'il y a eu 12 morts durant cette période, durant ces 3 jours, durant cette ascension. Comment ça se passe? Il y a des Sherpas d'ailleurs qui sont morts, je crois qu'il y en a 2 sur les 12.
Ouais, j'en ai vu un. Ouais.
Qui ramène les corps? Comment c'est possible d'être secouru? Parce que toi, j'imagine quand tu vois ces corps allongés, tu te dis peut-être qu'ils sont juste inconscients, qu'ils ne sont pas encore morts. Je ne sais pas quel est ton état d'esprit. Peut-être que tu mets des œillères à ce moment-là. Mais comment ça se passe, en fait, pour ramener les corps? Enfin, je veux dire, on est à des altitudes invraisemblables.
Eh bien, la seule solution, c'est de les ramener au camp 3, où là, un hélicoptère avec un câble, il ne se pose pas, il ne peut pas se poser, il n'y a pas assez d'air. En revanche, il peut, avec un câble, récupérer les corps et les redescendre au camp de base. Mais ça veut dire que si ça se passe proche du sommet, les Sherpas doivent les descendre. Il y en a, ils descendent sur leur dos, il y en a, ils les tirent jusqu'en bas.
Ils ont une obligation?
Ouais, enfin contractuelle, ça dépend des agences, mais la plupart du temps, oui, ils ont une obligation de redescendre le corps.
Ok, comment on fait pour continuer de descendre dans ces cas-là? Toi, psychologiquement, dans la tête?
On descend vite, parce qu'on se dit que plus on tarde et plus on prend de risques. C'est vraiment dans mon métier de skipper, on est très focus sur ce qui se passe. Parfois on occulte, on essaye d'être très neutre sur les émotions. J'ai gardé ce côté en me disant il se passe ça, on verra ça plus tard. Mais c'est vrai qu'arrivé au camp 2, j'étais choqué.
Choqué, oui, Marion.
Moi j'ai une question, maintenant que tu l'as fait. Est-ce que si on te redonnait la possibilité de le faire, tu irais ou tu dis non là, franchement, j'ai pris trop de risques, j'ai trop flirté avec la mort et j'y retourne pas?
J'aurais envie d'y retourner d'une autre manière. Peut-être pas cette montagne parce que je l'ai déjà fait. Peut-être une plus dure techniquement. En revanche, j'ai vraiment envie de dire, et je pense que les Sherpas et les agences en ont vraiment pris conscience cette année, il y a un gros problème, quoi. Il faut recaster les gens qui on autorise un permis.
C'est pas Disneyland, quoi.
C'est pas Disneyland.
Des tests physiques et des tests...
Ouais, et puis déjà des expériences avant. Nous, on a rempli l'ancienne exigence qui était d'avoir fait un 6000. Ce qui est très peu, hein. Donc je suis allé faire le Kilimandjaro qui est un presque 6000, et on a fait un sommet de 6100. Mais ça me paraissait peu, quoi, parce que dès qu'on commence à atteindre les 7000, déjà, c'est plus du tout la même chose, alors que c'est que 1000 mètres au-dessus. Et là, on va presque à 9000, quoi. Donc, d'avoir à minima fait un 7000 et un 8000 avant de pouvoir s'engager sur l'Everest, ça devrait être obligatoire. Et je pense que, clairement, les agences ont pris conscience que là, ils sont allés un peu loin.
Ok, Marie-Martine.
Oui, j'ai une dernière question. À quel moment tu penses avoir relâché la pression?
Arrivé au camp de base, en fait, on n'a pas parlé d'une zone qui s'appelle l'Icefall, la cascade de glace qui est entre le camp de base et le camp 1. Et ça, c'est aussi une zone qui est très meurtrière. Quand on est arrivé, donc il y a des Icefall Doctors, des gens qui équipent cette zone pour nous aider à passer avec des cordes fixes. Il y a 3 Sherpas qui sont morts parce que un bloc de glace leur est tombé dessus. Et c'est une zone qui est vivante, quoi. C'est en perpétuel mouvement.
Comme c'est la loterie, alors.
Donc c'est la vraie loterie. En redescendant, 3 heures après, il y a la cascade de glace du Nupsé qui est venue tomber sur l'Icefall. Et le lendemain, plus personne pouvait accéder à cette zone. Et ben, il y a 3 heures, on y était, quoi. Donc ça aurait pu être nous, quoi. Et ça, c'est vraiment une zone où, tant que t'es pas redescendu, tu peux pas relâcher la pression, quoi. Donc au camp de base, là, je me suis dit, ça y est, on a fini.
Témoignage saisissant de Maxime Sorel ce matin dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Et félicitations.
Je rappelle le hashtag Merci. Je fais mon max, l'association Vaincre la mucoviscidose, dont tu es le parrain national. Et puis, on va te revoir très vite. J'imagine que tu vas préparer le Vendée Globe 2024-2025.
Ouais, tout à fait. La Jacques Vabre à la fin de l'année, 2 transats en solo l'année prochaine et le Vendée Globe.
Il y a une place chez Banque Populaire, non? C'est pas ça?
En revanche, j'ai quand même une préconisation. Il va falloir se reposer à un moment donné, non, Maxime?
Ben, le week-end arrive, là.
Un petit peu. Ah oui, oui, je sais pas si tu te souviens d'un week-end.
Deux jours de repos, bien sûr.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et j'espère te revoir bientôt dans le studio RMC. C'était un vrai plaisir.
Avec plaisir.
De t'accueillir ce matin. Merci beaucoup, les GG.
Merci.
Merci. Marion, on va te laisser un petit peu tranquille avec Roland Garros.
Ah oui, là, pendant 15 jours. Oui, pendant 15 jours, ça va être compliqué.
Mais on retrouvera tout de même.
Mais vous serez dans mon cœur, ne vous inquiétez pas.
Avec une interview exceptionnelle et exclusive de Daniil Medvedev.
On n'oublie pas l'invitation à Wim, hein.
Oui, oui,
oui,
à toi,
oui,
dès qu'il faut gratter un buffet.
Il y a du toujours là pour une fête.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC. Demain, les GG à partir de 9h, où nous allons débriefer le multiplex de la 37e journée de Ligue 1. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.